Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce qu'on considère, à raison d'ailleurs, comme la plus grande ferme de France. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, au Salon de l'Agriculture, même si pour la toute première fois depuis 1964 et pour les raisons que vous imaginez, cette fantastique foire agricole n'aura pas lieu cette année. Mais alors, vous connaissez, oui, je sais, vous connaissez la maison. Vous savez qu'ici, à RTL, on ne pouvait pas se dire simplement adieu, veaux, vaches, cochons, et à l'année prochaine. Non, on ne pouvait pas, Jean-Sébastien. On ne pouvait faire qu'une chose dans RTL vous régale, c'est rendre hommage après de 6 décennies de visite présidentielle. Après de 60 ans d'existence de la plus légendaire foire aux bestiaux de France. Alors même si elle est virtuelle, jusqu'à 11h30, laissez-nous vous emmener dans ce salon, dans les allées de ce salon qui est aussi la sortie familiale des franciliens par excellence. Alors entre tête de veau, limonade de Lorraine et bières aveyronnaises, laissez-moi vous présenter celui qui va m'accompagner durant cette balade champêtre. Ses Miss France préférées sont les charolaises. Mais il a aussi couronné des Salers, voire consolé des Holstein. Cet homme est détenteur de la croupe du monde du bovin. J'ai nommé Jean-Sébastien Petit-Demange. Bonjour.
Bonjour, vous les avez toutes faites là. C'est le championnat du monde du jeu de mots là.
C'est le salon ou pas? Donc voilà. Quant à notre Miss Italie à nous, j'ai nommé Luana Belmondo. Étant légèrement souffrante ce matin, ben nous aurons un peu plus d'une heure, Jean-Seb, pour lui préparer le panier de victuailles typique du salon, histoire de la bichonner. Luana, on t'embrasse. Alors Jean-Sébastien, cette absence de Luana annonce également un événement inédit dans cette émission, puisque pour la première fois, j'affronterai donc personnellement Jean-Sébastien dans un défi frigo, à côté duquel la bataille de Trafalgar ressemblera à une partie de pédalo sur les lacs du Bois de Boulogne.
Ça, c'est
rendez-vous,
bien dur, ça.
Rendez-vous tout à l'heure, après l'info d'11h, et pour jouer avec nous, 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal, suivi de votre message au 64 900 à gagner un week-end gastronomique pour deux personnes à Caen-la-Mer, en Normandie. Et puis dans la playlist d'RTL, vous régale ce matin, Florent Pagny. Ça, ce sera pour dans quelques secondes. Ajoutez-y les frangines. Premier extrait de leur deuxième album prévu d'ici l'été. Et puis, un duo mythique des années 80. Mumu et Daniel, tout le monde se souvient du groupe Niagara. RTL vous régale. Si nous ne devons avoir qu'un mérite ce matin, il est forcément agricole.
Je suis toujours heureux quand je suis au Salon de l'Agriculture.
Mes félicitations et tous mes voeux de réussite et de bonheur.
Jacques Chirac, dont on va forcément beaucoup parler ce matin. Et pour magnifier la terre nourricière, voici Florent Pagny sur RTL. La chanson s'appelle tout simplement Terre. Les chansons de circonstances pour démarrer. RTL vous régale en ce samedi matin. Terre, évidemment, Florent Pagny. Et dans un instant, on vous amène dans les travées du salon, dans les allées de ce salon mythique avec des histoires, avec des anecdotes et peut-être même des histoires sur les vaches. A tout de suite avec Jean-Seb.
Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Très bon début de week-end sur RTL, dans RTL vous régale. Vous savez que ce week-end aurait dû débuter le 58e Salon International de l'Agriculture à Paris. Et pour la première fois depuis 1964, eh ben, les organisateurs ont été contraints d'annuler ce rendez-vous incontournable de la Porte de Versailles. Mais on ne va pas se laisser faire, Jean-Sébastien.
Décision prise au mois d'octobre dernier, ça a été un drame absolu dès ce moment. Presque 6 décennies, imaginez, qui tombent à plat en une seule année. Mais il faut savoir quand même que l'agriculture est une affaire primordiale depuis toujours et ça occupe l'État depuis bien bien longtemps. Imaginez, 1761, Louis XV crée déjà l'Académie d'agriculture de France, ayant pour mission de contribuer dans les domaines scientifiques, techniques, économiques, juridiques, sociaux et culturels à l'évolution de l'agriculture. 2 siècles et demi donc.
Ouais, ce qui fait que tout le monde a voulu gérer les affaires de l'agriculture par la suite, forcément.
Alors au 19e siècle, les affaires agricoles passent au ministère de l'Intérieur, puis au ministère du Commerce en 1830. En 1836, ce sont les travaux publics qui prennent la main. Et puis en 1880, le ministère de l'Agriculture est enfin créé.
Jean-Sébastien, depuis des siècles, il y avait déjà des marchés en France, des foires aux bestiaux un peu partout dans le pays. Mais l'idée même du salon de l'agriculture, elle vient d'où finalement ?
Alors, c'est né en 1870. L'idée vient d'un concours général agricole qui s'est tenu au Palais de l'Industrie. C'est là où se trouve le Grand Palais aujourd'hui. 1925, on construit les bâtiments de la Porte de Versailles, déjà, pour accueillir ce concours général. Et puis, c'est à la Porte de Versailles que le premier salon de l'agriculture ouvre ses portes en 1964, à l'initiative du ministre de l'Agriculture du général de Gaulle, qui était Edgar Pisani, le général qui inaugurera le salon en 1965, et il lança ainsi la coutume qui veut que le président de la République inaugure le salon de l'agriculture.
sûr.
Alors vous me tendez la perche forcément. Hein. S'il y a un homme politique en France qui est associé à ce salon de l'agriculture, c'est même le cas particulier, c'est le cas Chirac. Son histoire d'amour avec le salon, elle est née bien avant son élection à la tête de l'État français.
Première visite de Jacques Chirac, 1972. Il n'a raté qu'une seule édition, celle de 1979, à la suite d'un accident de voiture. Une fois président de la République, ses visites sont devenues de véritables événements. Ses dégustations de produits du terroir étaient légendaires. Il passait en revue les animaux. Il avait à chaque fois un mot gentil pour l'éleveur. Il connaissait les vaches par cœur. Il arpentait les différents halls de la porte de Versailles pendant des heures, et ce, avec un plaisir évident.
Chirac, le roi de l'archive du salon pour RTL.
Très bonne. Ah oui. Matin, midi et soir,
on est sûr de bien se porter. Et pourtant, Jean-Sébastien, il ne détient pas forcément le record de la plus longue visite, le président Chirac.
Jacques Chirac, sa plus longue visite, ça a été autour de 5 heures. Ça a été 330 minutes globalement, parce qu'il y a des comptes qui ont été faits très précis.
Et record absolu pour Emmanuel Macron, on est en 2019. Et là, c'est le champion de toute catégorie, on se rend pas compte parce qu'on associe toujours Chirac. Mais le président Macron est resté presque 12 heures au salon de l'agriculture. Jean-Sébastien, les vaches sont devenues les égéries de ce salon de l'agriculture assez récemment en fait.
Oui, parce qu'on voit cette affiche qui fleurit un peu partout dès le mois de fin janvier, début février. Mais ça n'est qu'en 2011 que la vache est devenue l'emblème du salon. Elle est sur toutes les affiches, c'est la star pendant plus d'une semaine. Chaque année, il y a un comité d'organisation qui désigne une race à mettre à l'honneur. C'est ainsi que se sont succédés la Normande, la Vosgienne, la Primolstein, la Tarentaise, la Rouge Flamande, la Salerse. Et l'année dernière, c'était la Charolaise, et cette vache s'appelait Idéal.
Et je peux vous dire que sur les vaches, il en connaissait un, vous, monsieur le président.
Ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre.
Allez, dans les choses qu'on sait moins, parce que c'est ce qu'on aime beaucoup dans RTL vous régale, vous savez. Qu'est-ce qu'on sait moins sur ce salon de l'agriculture?
Eh bien, il y a le salon à la porte de Versailles. Ce qu'on sait moins, effectivement, c'est que tous les deux ans se tient au parc des expos de Paris Nord, à Villepinte, c'est-à-dire à côté de Roissy, globalement, un salon international du machinisme agricole. C'est-à-dire que toutes les énormes machines, toutes les nouveautés, toutes les innovations, ça se passe là-bas, c'est tous les deux ans, c'est en matière d'agriculture, de forêt, c'est étonnant. Alors ça va changer parce que justement la pandémie a totalement bouleversé le paysage. Maintenant ça va avoir lieu non plus au mois de mars, mais au mois de novembre.
Alors vous faites bien de parler de machines agricoles, Jean-Sébastien, parce que je suis venu aujourd'hui à RTL en moissonneuse-batteuse. Exactement.
Oui,
j'ai pris ce qu'il fallait, j'ai mis les moyens. Parce que aujourd'hui notre défi frigo, en l'absence de Louana, va m'opposer à Jean-Seb, je le rappelle. Vous allez nous donner un ingrédient, cet ingrédient sera drôlement important parce que nous aurons 1 minute 30 pour imaginer une recette. C'est notre défi frigo, rendez-vous juste avant les infos d11h pour tenter de gagner ce week-end gastronomique pour deux personnes à Caen-la-Mer en Normandie. Si vous voulez entrer dans l'histoire d'RTL vous régale, c'est peut-être le seul défi frigo de l'histoire de cette émission où je vais affronter Jean-Seb. Donc n'hésitez pas pour jouer avec nous, c'est simple, 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64 900. On vous dit tout sur ce qu'on voit au salon de l'agriculture puisque vous savez que nous l'avons recréé de manière virtuelle pour vous et on s'y balade jusqu'à 11h30 en direct sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Le salon de l'agriculture virtuelle d'RTL vous régale. Ce matin, on prend beaucoup de plaisir à s'y promener et à réécrire l'histoire de ce salon. Sortie familiale des franciliens par excellence, je le disais, il n'y a rien d'étonnant à ce que la semaine du salon de l'agriculture tombe évidemment pendant les vacances d'hiver de la zone parisienne. Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'on va faire au salon de l'agriculture?
On va voir les animaux, évidemment, parce que c'est la plus grande ferme de France et les enfants adorent ça. Parce que certes, il y a des vaches, tout le monde le sait, mais il y a aussi des ovins, il y a des lapins, il y a des poules, tout un hall qui est consacré aux chiens et aux chats, il y a des chevaux et des poneys, donc c'est vraiment un endroit où les enfants voient des animaux partout et c'est un véritable bonheur.
Et ce qu'on sait peut-être moins aussi, c'est qu'on peut même y acheter du poisson.
Il y a un stand particulier, c'est celui de la région Bretagne, où tous les jours, depuis quelques années, eh bien, les produits de la mer, les poissons, les crustacés, les coquillages, qui sont exposés sur ce stand et qui arrivent tous les matins en direct des criées bretonnes, eh bien, ces produits sont vendus dans l'après-midi à la criée, justement. C'est devenu un rituel pour un grand nombre d'habitués qui viennent tous les jours au salon pour acheter des produits à des prix véritablement défiants toute concurrence et des produits de première fraîcheur.
Sans compter que on y achète tous les fromages de France, qu'on peut notamment y acheter du Beaufort. Voilà, l'ombre du président Chirac plane sur cette émission ce matin sur RTL, ça nous fait chaud au cœur. Le Beaufort, Jean-Sébastien, justement, on va en parler avec un professionnel que je vous présente, il aurait dû être au salon, il n'y est pas forcément, mais il est dans cette émission et c'est l'essentiel. Yvon Bochet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Alors vous êtes agriculteur dans le Beaufortin, évidemment, et votre histoire est singulière parce qu'à l'âge de 11 ans, vous étiez dans les alpages avec votre père et depuis 49 ans, bah, vous n'avez jamais arrêté, vous êtes président de l'Union des producteurs de Beaufort. Et on peut dire que bah, finalement, vous avez une production assez modeste comparé à d'autres. Vous faites quoi ? 120 000 meules par an, ce qui est une production modeste.
À peu près 120 000 meules, ça peut paraître beaucoup, mais si vous prenez la comparaison par rapport à d'autres appellations comme le Comté, on est tout petit. Le Comté, c'est 60 000 tonnes et nous, c'est 5 000.
Yvon Bochet, on a discuté un peu avec les gens qui vous entourent, avec votre équipe. Elle dit de vous, cet homme a 10 idées à la seconde. Et on le prouve, il le prouve. Cette année, avec l'absence du Salon de l'agriculture, vous avez monté une campagne de communication beau génial. Et fort. Oui, c'est absolument génial. Et vos jeunes producteurs sont devenus des mannequins. Expliquez-nous.
C'est parti toujours d'une idée un peu parfois qui peut paraître loufoque où on se laisse aller à quelques-uns à imaginer la campagne d'après. Mmh. Et cette année, on avait besoin, un peu vu le contexte, de sortir un peu des campagnes traditionnelles et d'amener un peu de, moi, ce que j'appelle de la couleur dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'idée. On a dit, mais pourquoi on ne mettrait pas en image nos producteurs, en plus en jouant sur le jeu de mots, puisque dans Beaufort, il y a deux parties, beau et fort, et ça peut s'appliquer également à nos éleveurs.
Est-ce que ce Beaufort se porte toujours aussi bien ?
Alors je sais pas, c'est toujours dangereux de dire qu'on se porte bien, parce que ça veut dire qu'on est des nantis quand on dit qu'on se porte bien. On se bat tous les jours pour valoriser nos produits, on est en montagne dans des zones difficiles, et on n'a pas d'autre choix à faire que la qualité pour valoriser notre production. Mmh. Donc oui, on va plutôt bien, on a des jeunes producteurs qui arrivent, ça c'est bon signe, parce que c'est le renouvellement des générations.
Est-ce qu'on fait encore du Beaufort en France aujourd'hui, comme on le faisait il y a 60 ans, au début, ou presque, du Salon de l'agriculture, justement ?
On a modernisé nos exploitations, on a modernisé nos ateliers de transformation. Ça veut dire, moderniser, ça veut dire qu'on a adapté aux produits la mécanisation, et pas l'inverse. Ça veut dire qu'on a, le produit est toujours le même à la sortie. C'est toujours l'homme qui décide à toutes les étapes de la transformation ou de la production. Par contre, tout ce qui était pénible, on l'a modernisé et on l'a automatisé.
Ok, et donc vous avez forcément, avec la modernisation de vos techniques de production, amélioré l'affinage aussi. Est-ce qu'on peut affirmer, ça va être difficile, hein, je vous préviens, mais est-ce qu'on peut affirmer que votre Beaufort est meilleur aujourd'hui qu'il l'était il y a 60 ans ?
Alors, il faut se méfier là aussi, parce que dans les souvenirs, on se souvient toujours du bon.
c'est vrai.
Voilà, si vous demandez à n'importe quel consommateur, il vous dira, le Beaufort, j'ai un souvenir d'un Beaufort extraordinaire et que j'ai du mal à retrouver. Moi, ce que j'affirme aujourd'hui, c'est qu'on a un Beaufort, on se fait plus souvent plaisir avec un Beaufort aujourd'hui qu'il y a 50 ans en arrière, parce qu'on a amélioré la qualité moyenne des Beauforts. Mmh. L'exception existe toujours, mais il faut accepter aussi dans ces produits qui sont des produits naturels, où il n'y a aucun ajout, où on travaille vraiment au plus près de la nature, il faut accepter parfois d'être surpris en bien. D'autres fois, un peu moins.
On est au Salon de l'agriculture virtuelle sur RTL dans cette émission ce matin. C'est une vraie volonté de notre part de vous rendre hommage. Il faut rendre hommage à une vache. Elle est essentielle dans votre activité. Elle conditionne votre vie. C'est la tarine.
Ah, c'est la tarine. C'est la race emblématique des montagnes savoyardes. Je ne vais pas faire de jaloux puisqu'il y a deux races dans le Beaufort. Il y a la tarine et l'abondance. L'abondance étant plutôt sur la Haute-Savoie et sur la zone Reblochon. C'est la deuxième race du Beaufort. Mais la tarine est vraiment l'emblème de la montagne. En plus, elle a une belle gueule. Et sur les photos, c'est quand même important.
Elle est belle et forte, on va dire ça comme ça.
Voilà, elle est belle et forte. On a un petit souci, mais je vous le dis, on a réussi avec les gars à faire le jeu beau et fort. On aimerait le faire avec nos éleveuses, puisque aujourd'hui, une agricultrice sur trois dans la zone Beaufort est une femme.
Oui, c'est bien de le rappeler quand même. Et pour tous les amateurs de Beaufort qui viennent chaque année au salon, et puis pour tous les autres, on précise quand même qu'ils peuvent commander en ligne. Le site c'est fromage-beaufort.com et à l'intérieur même de ce site, il y a un espace dédié à la vente en ligne pour vos fromages et pour les différents producteurs. Voilà, merci mille fois en tout cas d'être passé par chez nous. Profitez de ce délicieux week-end dans votre Beaufortin, ce magnifique Beaufortin, et continuez à nous régaler. On vous embrasse et merci d'être passé chez nous voir. Ça nous fait toujours plaisir. Yvon Bauchet, à bientôt.
Merci. Au revoir.
Devenir quelqu'un, ainsi les frangines sur RTL. Merci de passer la matinée avec nous. On est ensemble jusqu'à 11h30.
Dans leur prison dorée, des géants de ce monde construisent en papier des chimères et des bombes. Dire que petit enfant, on rêvait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant, on s'enferme en dedans. Qu'est-ce que moi, je fais dans tout ça? Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi? Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien. Se faire une place. Ce quel qu'en soit le prix, y'a pas de règle, hélas. Mais qu'a-t-on réussi quand on fait notre audace? Et qu'on se sent petit dans nos prisons de glace. Qu'est-ce que moi, je fais dans tout ça? Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi? Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Qu'au mieux j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien. Plus respirer, j'ai mon cerveau qui crève. Les écrans de fumée ont enfermé mes rêves. Dire que petit enfant on voyait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant on s'enferme en dedans. Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Qu'au mieux j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien.
Devenir quelqu'un, le tout nouveau titre des Frangines, les premiers extraits de leur deuxième album. L'album est attendu d'ici l'été sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka.
Bonne matinée sur RTL, très bon début de week-end. RTL Royal au Salon de l'Agriculture que nous recréons pour vous puisqu'il n'a pas lieu cette année à la Porte de Versailles. Ce salon dans lequel il y a des animations en permanence, Jean-Sébastien. Il y a des rendez-vous qui sont des rendez-vous presque obligés en fait.
Mais vous savez, moi je me faisais une joie quand on a commencé cette émission justement d'aller au Salon de l'Agriculture. Je savais qu'on irait et puis paf, voilà ce qui est. On a cette pandémie qui nous tombe dessus. Mais c'est vrai que j'y suis tellement allé pour RTL. RTL, pour d'autres médias, il y a des animations en permanence. Déjà, il y a les confréries qui viennent sur les stands. Tous les jours, il y a une dizaine de confréries différentes, de fromages, de sucreries, de vins qui viennent introniser et qui viennent faire le show. Et puis, vous avez également des démonstrations de chefs. Tous les chefs de France se succèdent sur les stands des régions. Je pense à Michel Chabran, notre ami Michel, qu'on avait il y a quelques semaines dans l'émission. C'est un fidèle du Salon de l'Agriculture. Il vient tous les ans sur le stand de la Drôme pour cuisiner des truffes, évidemment, puisque c'est encore la saison. Et puis, il y a une habitude, je vais pas avec Virginie Garin qui doit être aussi malheureuse que moi, on allait régulièrement manger des aligots dans le restaurant à Véronée, on allait voir notre ami Pierre Oteiza qu'on aura tout à l'heure dans l'émission, et puis il y a le hall des Outre-mer.
Et Virginie Garin, dont on rappelle qu'elle est chef du service qualité de vie à RTL.
Qualité de la vie, oui, qui a suivi tous les salons de l'agriculture depuis 20 ans. L'habitude du hall des Outre-mer, c'est vrai que ce hall-là est particulier. C'est le plus près de la sortie déjà, et c'est bien. C'est là où on a les plus beaux acras. Vous avez les samoussas, vous avez le rhum, vous avez les rhums arrangés, vous avez des petits ponches, vous avez des ponches coco. C'est une folie sur le des Outre-mer, et je peux vous dire que c'est là où la première fois, il y a quelques années, et j'en ai encore le frisson, où on m'a fait goûter du rhum de papette. Le premier rhum tahitien, ça ne se faisait plus. Et puis il y a un fou, un bordelais qui est parti là-bas, il a acheté un atoll, il a replanté de la canne et il a refait du rhum de Polynésie. Depuis, il y en a quelques-uns qui se sont lancés. Et tout ça se fait dans ce hall des Outre-mer.
Vous avez compris que si vous cherchez Jean-Sébastien Petit-Demange dans le Salon de l'Agriculture, il est vers la sortie, stand des Outre-mer. Je retiens de ce propos que dans le salon, il y a des confréries, qu'il y a des chefs, oui, qu'il y a des produits d'exception et donc forcément...
Il y a des choses à boire.
Il y a de l'amour. Laissez-moi vous raconter un conte de fées au parfum d'Armagnac. Nous sommes un soir d'hiver 2012. Notre prince, Pierre de Saint-Pastoux, fils de la famille du même nom, producteur d'Armagnac depuis 1790, rencontre sa princesse, Frédéric. L'amour est dans le pré, sur M6. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants Armagnac et un petit garçon. On va en parler. Pierre et Fred, le couple star de l'amour est dans le pré, est avec nous ce matin dans RTL, vous régale. L'amour est aussi dans l'Armagnac. Bonjour Fred et Pierre.
Bonjour.
Et c'est sympa d'être avec nous, ça nous fait vraiment plaisir parce que votre couple va bientôt fêter ses 10 ans et vous avez réussi à redonner à l'Armagnac ses lettres de noblesse. Alors Frédéric, vous êtes aussi tombée amoureuse de cet alcool ambré et lumineux et on peut dire que vous avez dynamisé les bouteilles, proposé des idées nouvelles à l'Armagnac qui ne doit plus rester caché au fond d'un placard comme c'était le cas parfois. C'est vrai, hein ?
On essaye un petit peu, on veut y mettre sa patte. Donc Pierre aussi a remis des choses au bout du jour, donc on ne va pas à l'encontre d'une chose ancienne. On essaie de les remettre au goût, à la mode, au goût des gens, etc. Et puis surtout, initier les jeunes, pas les très jeunes, hein, je m'entends. Hein.
Bien sûr.
Et les jeunes, on va dire, pour leur dire, mais attention, aujourd'hui, on a envie aussi de revenir aux vraies valeurs. Ça nous fait penser au cantou, au coin du feu avec papy, mamie. On sortait le petit verre, on mettait le petit sucre, le canard à l'Armagnac. Alors bon, là, aujourd'hui, c'est plus trop le canard parce qu'un producteur, vous leur dites, on met un sucre dans l'Armagnac, ils n'aiment pas trop. Mais moi, comme je ne suis pas issu de l'Armagnac, j'ai le droit de le dire.
Voilà, vous avez le droit. Pierre, il y a des signes qui ne trompent pas quand même. Vous avez remplacé, par exemple, les bouteilles en verre verte, les classiques qu'on connaît, par des bouteilles transparentes, histoire de voir le produit, justement.
Oui, en fait, on a une bouteille assez traditionnelle qu'on appelle la basquaise, qu'on utilisait à une époque pour planquer, hein, parce qu'elle est toute ronde, plate, on peut la planquer entre deux valises. Aujourd'hui, on ne planque plus et elle est transparente parce qu'elle laisse le joli jaune d'or coloré, caramel qu'on peut trouver à travers les alcools et qui quelquefois était caché derrière des bouteilles d'une couleur verte. Voilà, et c'était assez triste.
Je parlais d'amour il y a quelques instants. Il faut absolument que vous nous parliez de tout l'amour que vous portez à votre grand-mère qui faisait ce grand saladier. Faites-nous rire parce que dans ce saladier, c'est que du bonheur. Hein.
Mais oui, parce que dans les soirées, dans les années 60, au château de Castex, chez ma grand-mère, il faut pas croire qu'on buvait que de l'eau. On avait 17-18 ans, comme tout le monde a 17-18 ans, on avait envie de s'égayer un peu et on mettait de la crème fraîche, donc au départ ça fait pas rêver, des œufs, de la farine et bien sûr on y rajoutait de l'armagnac dedans. Et là était né le fameux Alexandra, hein, qu'on buvait dans les clubs de jazz à l'époque, et c'est né là, dans ces années-là, et mon père me parlait toujours de cette Alexandra, et je trouvais ça ringard, et il y en a un qui est devenu très très fameux, voilà, qui est le Belize, hein, pour pas le citer, et nous, bien, on a remis ces recettes au goût du jour en créant le Baylet du Gers, le
Baylet du Gers. Pierre et Fred, vous restez surtout avec nous dans RTL vous régale parce qu'on a encore mille une choses à vous demander. Il y a des histoires à raconter autour de ce produit absolument fabuleux qu'est l'Armagnac. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants sur RTL. À tout de suite.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
C'est le couple star de l'amour et dans le pré sur M6, parce que l'amour est aussi dans l'Armagnac. Ils sont producteurs aujourd'hui. Pierre et Fred sont nos invités dans RTL vous régale. Les amis, offrir un verre d'Armagnac à un copain, c'est un message fort, c'est de l'amitié, c'est un peu une manière de dire tu comptes dans ma vie finalement, non ?
Tout à fait, je pense que le moment de l'Armagnac, c'est le moment des confidences, c'est le moment des rendez-vous ratés, ceux qui ont été réussis. Les amours d'été qu'on n'a pas eu, ce qu'on a eu, et puis c'est finalement en une demi-heure on va passer de notes tellement différentes, l'éther un petit peu au départ, il y en a toujours un peu, il est logique, hein. On est sur un alcool fort et puis petit à petit on va le chauffer, l'aérer tout en faisant ses confidences et on va passer du pruneau, de la vanille, on peut finir sur un vieil Armagnac avec des notes de tabac et tout ça en une demi-heure, c'est-à-dire c'est une séquence qui chaque seconde change et qui compte dans le moment de cette, on va dire, de complicité humaine. Et c'est le rendez-vous de l'Armagnac, je pense.
Pierre, vous avez prononcé le mot de rendez-vous raté là il y a quelques minutes. Est-ce que justement ce salon sur lequel vous êtes présent depuis 2013, il vous manque cette année parce que ça manque à tout le monde, ça manque à tous les agriculteurs. Comment on fait quand on est vous producteur pour justement pallier ce manque de salon de l'agriculture?
Vous imaginez qu'à cette heure-ci, on serait en train de finir le jambo d'Oteiza. On serait tellement heureux de retrouver les ch'tis, les Bretons, et certains d'outre-mer qui viennent aussi pour ce voyage et puis la France entière, la France. On vient là pour les papilles, pour la passion, pour aussi nous poser des questions. Et c'est vrai que ça nous manque. Moi, je vais passer une semaine triste. Frédéric va être là pour me soutenir, mais c'est vrai que ça va nous manquer.
Frédéric, elle en parle très bien de ce salon de l'agriculture. Fred, parce que vous dites que le salon, c'est le Graal pour les agriculteurs. C'est la Mecque, donc c'est forcément difficile. C'est le moment où il devient le plus légitime, où il est mis en lumière. Vous dites que c'est comme Cendrillon au bal. Je trouve ça très joli.
Quand Cendrillon, elle est devant l'âtre en train d'enlever les cendres, et puis d'un coup, avec une petite baguette magique et une bonne fée, ben, elle arrive, on la valorise, on lui dit qu'elle est belle, elle a une belle robe, etc. Elle est au milieu des grands. Et je pense que les agriculteurs qui, toute l'année, sont dans le froid, dans leurs étables avec leurs bêtes, jour, nuit, week-end, il n'y a pas d'horaire, etc. C'est vraiment un sacerdoce. Et quand ils montent à Paris, c'est un petit peu la colo de vacances, donc on monte à Paris, mais quand même, on a envie de retrouver des vaches, des cochons, des coqs, des tracteurs et surtout des gens qui parlent du métier. Mais surtout, on les met en lumière, on les met dans un écrin, donc le parc d'exposition de Versailles, etc. On les met dans un écrin aussi de région, puisque chaque région est représentée, donc chaque personne, on va dire que le point de ralliement de chaque personne qui monte au salon, c'est d'aller d'abord dans sa région, son département. Voilà, on est légitime, les agriculteurs sont légitimes parmi la ville. Et c'est génial parce que ça leur donne une reconnaissance qu'ils n'ont pas localement, parce que localement, c'est souvent là que l'agriculteur est le moins reconnu quelque part dans sa profession et dans sa vie, tout simplement.
En fait, le salon de l'agriculture, ça n'est que de l'humain. C'est des gens qui ne se voient pas pendant toute l'année et puis qui se retrouvent pour échanger parce qu'ils habitent le nord, le sud. Ils vont pas se voir, mais ils font le même métier. Ils ont la même passion du terroir. Et moi, ça, à chaque fois que je suis allé au salon de l'agriculture, c'est ça qui m'a bouleversé parce que vous faites le plus beau métier du monde, même si c'est un des plus difficiles.
Fred, est-ce que vous vous souvenez de ce moment, il est important j'imagine, ce moment lors duquel Pierre vous avait fait déguster votre première Armagnac?
Effectivement, ce n'était pas genre on prend un verre et on prend un petit shot comme ça y est, l'alcool est fort, ça nous enivre, non. Il y a vraiment tout un cérémonial, on doit prendre un verre, on met l'Armagnac, on n'en met qu'un tout petit peu. Donc surtout, il m'a dit, surtout, tu n'y mets pas le nez dedans, c'est quelque chose... C'est quelque chose d'un peu de sucré. On apprend à déguster l'Armagnac. Voilà, c'est totalement différent qu'une dégustation de vin. Donc, c'est pour ça que les gens aussi aiment bien aller dans le Gers, dans les Landes, dans les vieux domaines. plutôt ceux voilà, qui sentent un petit peu le moisi un peu rugueux, parce que c'est là qu'on arrive à avoir toujours une personne qui peut nous faire découvrir la dégustation de l'Armagnac à la, traditionnellement, voilà, dans quelque chose de moins aseptisé. Bon, Pierre, le salon, c'est un peu aseptisé, mais on essaye quand même.
Pierre, quand on entend les propos de Frédéric, on se dit que vous l'avez drôlement bien initié. Hein.
Oui, mais moi, je me souviens très bien de son premier verre. À l'époque, il y avait une concurrente. Bon, elle n'a pas fait long feu. Et elle s'est très bien débrouillée sur la dégustation. Mais c'était pas un critère pour la choisir.
Allez, voilà. ce sera la dernière remarque que je formulerai, mais c'est important de le dire. Il faut se souvenir, quand on boit de l'Armagnac, qu'il faut quand même, allez quoi, il faut 15 ans pour faire une bouteille de bon Armagnac.
Oui, il faut 15 ans, donc 15 ans de vieillissement en barrique, hein, je le souligne. On n'est pas sur du vieillissement en bouteille. Il n'y a pas d'intérêt de laisser affiner ces Armagnacs en bouteille, à moins d'avoir de très très vieilles bouteilles qu'on stocke bien, mais c'est les 15-20 premières années affinées en barrique, où il va y avoir à peu près une perte de l'ordre de 40% hein, du produit initial. C'est là que tout se joue. Et donc ensuite, la date de mise en bouteille est précisée sur l'Armagnac, ça c'est important. Et je dirais que voilà, 15-20 ans, on va commencer à avoir un équilibre entre les arômes, l'alcool. Bon, il faut quand même du feu, hein, bien sûr. On n'est pas sur une liqueur douce, mais un bel équilibre. Voilà, 15 ans, c'est déjà quelque chose de très bien. Et dans les degrés de 44-45% minimum, c'est impeccable.
15 ans pour faire un bon Armagnac et 10 ans d'amour après l'amour et dans le pré sur M6. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Soyez heureux et on sent que vous
Merci.
L'êtes en tout cas. On vous embrasse fort.
Merci.
Prenez
Merci
soin de
beaucoup.
Vous. À bientôt. RTL vous régale. C'est tous les week-ends. Le samedi, 10h, 11h30 sur RTL.
RTL vous régale.
Quand j'ai
C'était Benjamin Biolay sur RTL.
RTL vous régale. Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Nous sommes de retour pour le défi frigo d'RTL vous régale en ce samedi matin. Je vous le disais en lançant cette émission, défi frigo exceptionnel. Défi frigo inédit, à côté duquel la bataille de Trafalgar ressemblera à une promenade en pédalo sur les lacs du Bois de Boulogne. Car pour la première fois, aujourd'hui, j'affronterai moi-même et en l'absence de Louana Belmondo, le dénommé Jean-Sébastien Petit-Demange.
Oh mon Dieu.
Elle va orchestrer le débat, elle s'appelle Cécile. Elle est dans l'Essonne, à côté d'Ivry. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Cécile, je ne sais pas si vous avez bien conscience de ce que nous sommes en train de vivre, mais vous entrez dans l'histoire.
Merci.
C'est mon premier combat contre un adversaire à la mesure de ce défi frigo.
Oui.
Alors Cécile, je vais vous laisser orchestrer le tout. Racontez-nous, qu'y a-t-il dans votre frigo et sur quoi allons-nous nous écorcher vif?
Sur des saucisses de veau.
Oh, c'est beau. Je n'en attendais pas moins. De la saucisse de veau.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec de la saucisse de veau, moi? 1 minute 30, chacun, pour vous exposer une recette originale. Je D'accord. vous garantis que je n'ai pas appelé Louana Belmondo. Elle est à la maison ce matin.
Oui,
elle n'est pas
oui.
avec nous. On l'embrasse
oui.
d'ailleurs, encore une
ah,
fois.
Ah oui, je l'embrasse très fort aussi.
Mais n'empêche que même si Louana n'est pas là, Cécile, dans quelques minutes après l'info, il vous faudra choisir laquelle des deux recettes que nous allons vous présenter vous plaît le plus.
D'accord, très bien.
On se retrouve dans quelques instants sur RTL.
C'est pas simple hein, de préparer une recette en faisant en animant. Hein.
À qui le dites-vous? Nous nous retrouvons dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Vous écoutez RTL. Très bonne matinée, il est 11h. Merci beaucoup Thomas Dulin. Prochain point sur l'info tout à l'heure, à midi sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite.
Il y a tout juste 5 ans, il remportait The Voice. Il est devenu depuis l'un de vos chanteurs préférés, Claudio Capeo, invité d'Orphée la télé tout à l'heure à 11h30.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et c'est l'heure du défi frigo de ce week-end. En ce samedi matin sur RTL où j'affronte Jean-Sébastien Petit-Demange grâce à Cécile. Cécile, des saucisses
oui.
de veau. Je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vous n'êtes pas venu avec, je sais pas, avec des trucs trop compliqués. Moi, la saucisse de veau, ça m'a inspiré. Que voulez-vous que je vous dise, ça, c'est, j'ai décollé directement en 1 minute 30, une recette, bim, bam, boum. Qui voulez-vous entendre d'abord, ma chère Cécile?
Bah vous.
Je démarre. Eh ben d'accord, si vous le prenez sur ce ton, on va se parler. On va se parler. 1 minute 30, montre en main, top chrono. Allez, top.
D'accord.
Cécile, je vais vous faire un pitivier végétal. Vous voyez ce que c'est un pitivier, une espèce de terrine mais sans pâte.
Oui.
Végétal, pourquoi? Parce que la saucisse de veau ajoutée aux épinards, à des champignons et à du céleri rave devrait vous étonner. Alors vous allez prendre, vous savez, les cuillères à boules parisiennes et vous allez creuser votre céleri rave quasi entièrement. Vous allez couper vos saucisses dans le sens de la longueur et vous allez disposer une couche de saucisse dans le fond de cette boule de céleri. Vous me suivez, hein? Ensuite, par-dessus, vous allez ajouter une couche d'épinards crus, j'insiste. Une couche de champignons cuits en tranches et puis vous allez renouveler l'opération saucisse, épinards, champignons jusqu'à ce que cette boule de céleri soit remplie. Vous allez mettre cette boule de céleri avec l'ouverture vers le bas sur une plaque que vous allez enfourner à 160 degrés pendant, allez, je vais vous dire, à peu près 45 minutes. D'accord ? Ça va dépendre un peu de la taille de votre céleri rave. Et puis vous nous décrirez à la sortie la surprise de vos invités à la découverte de ce pitivier végétal. Mais pas que. Top chrono, je vous l'ai fourni en moins d'une minute trente.
Je peux juste poser une question?
Si vous voulez, oui, bien sûr.
Ouais. Pourquoi pitivier?
Bah parce que c'est une espèce. Le pitivier, vous savez, c'est une espèce de pâté. On pourrait parler de pâté en croûte avec les différents niveaux. Sauf que là, il n'y a pas de croûte puisque c'est le céleri qui fait la croûte. Mais suivi?
Parce que oui, enfin vous savez qu'un pitivier c'est ni plus ni moins qu'une galette des rois. Hein,
non mais alors non parce que le pitivier, vous savez moi je suis d'origine belge et pour nous le pitivier c'est une espèce de pâté et je vous en reparlerai dans quelques instants. Mais je ne veux pas interférer sur votre recette.
Non mais c'était pour avoir une précision.
Oui non mais bien sûr, commencez comme ça. Et donc en 1 minute 30 Cécile, écoutez voilà. Ce que mon challenger a à vous dire, top chrono.
Écoutez, on va, Cécile, on va se battre à peu près avec les mêmes armes, mais pas seulement. Vous allez prendre un chou,
que vous allez prendre les grosses feuilles extérieures que vous allez faire blanchir dans l'eau bouillante salée pendant 3 minutes. Pour ce qui est du cœur du chou, les feuilles plus blanches, vous les taillez en petits dés et vous allez les faire suer au beurre avec de l'ail et de l'oignon émincé pendant quelques minutes. Ensuite, vous prenez plein d'herbes, du persil plat, de la ciboulette, de l'estragon, que vous allez hacher très finement. Vous allez prendre la chair de vos saucisses de veau. Vous mélangez tout cela avec vos herbes, avec votre chou qui a sué au beurre. Vous mélangez avec un œuf et puis vous allez rajouter quelques dés de poire, de la comisse par exemple, qui se tient un petit peu. Vous allez prendre les grandes feuilles, vous allez faire des petites boules de chou et puis vous allez faire 4 choux comme ça dans un plat. Vous mettez un peu de bouillon de volaille au fond, 180 degrés au four pendant 20-30 minutes, vous récupérez le jus de cuisson. Vous le faites monter un peu au beurre et vous allez voir la tête de vos amis quand ils vont ouvrir le chou et qu'ils vont avoir ce goût extrêmement floral, plein d'herbes, très frais. C'est du chou farci de début de printemps avec vos saucisses de veau. Vous m'en direz des nouvelles.
Mais du chou farci de début de printemps, mais Jean-Sébastien, vous n'imaginez pas une seule seconde que vous allez pouvoir l'emporter ce matin avec une recette aussi basique.
Vous êtes d'aussi mauvaise foi que moi, c'est incroyable.
Je suis à la hauteur de mon adversaire. Je suis là, Cécile, pour venger Luana Belmondo qui endure un calvaire, évidemment, vous le savez, quotidien, voire hebdomadaire. Vous êtes en présence de deux belles recettes, il faut se l'avouer. Hein,
oui.
Cécile, mais dans quelques instants, et même pas plus tard que tout de suite, vous allez devoir choisir.
Oui. Alors les deux sont très appétissantes.
Je ne vous le fais pas dire.
Je vais pencher pour vous, Jean-Michel.
Oh oui, Cécile. Il est en finale. Il est en finale. Il est en finale. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous faites. Carla, et d'ailleurs, je vais vous le démontrer. Je vais vous envoyer là où vos papilles vont s'éveiller. Grâce à ce choix, vous allez partir à Caen-la-Mer en Normandie, une région très réputée pour sa gastronomie. À Caen-la-Mer, il y a de très bonnes adresses, mais là on vous envoie dîner et loger au restaurant Yvan Vautier à Caen, le restaurant d'un chef exceptionnel, une étoile au Michelin, 3 Tokogo Emilio, et il va vous faire découvrir ce que la Normandie fait de meilleur. Alain Vautier va vous proposer un savant mélange entre terre et mer qui s'harmonise dans ses plats, qui met à l'honneur la Normandie et les producteurs locaux. Et après le resto, vous allez passer une nuit à l'hôtel 5 étoiles d'Yvan Vautier. Week-end exceptionnel, Cécile, pour découvrir la destination de Caen-la-Mer, la ville de Caen, son bord de mer à proximité. C'est un cadeau RTL vous régale.
Merci infiniment.
L'histoire est belle. Mais Cécile et Jean-Sébastien, je vous dois la vérité. Je ne pourrais pas vivre avec un secret aussi lourd à porter. Cette recette est signée par un certain Mathieu Van de Velde, qui, comme moi, est belge. Vous connaissez, Cécile, Mathieu Van de Velde ?
Dans Top Chef.
Et évidemment, c'est le candidat belge de Top Chef saison 12 en ce moment sur M6. Et évidemment, cette semaine, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un défi frigo. C'est peut-être la seule fois dans ma vie, c'est peut-être la dernière. J'appelle Mathieu, qui est en ligne avec nous. Salut mon Mathieu.
Bonjour. Bonjour Mathieu. Bravo Jean-Michel.
Merci Mathieu, grâce à toi, je suis le vainqueur. Il faut le dire, ça s'est passé de manière complètement sympa parce que j'ai appelé Mathieu, je dis bon, voilà, je t'explique le truc. J'ai de la saucisse de veau. Qu'est-ce que je vais faire avec cette saucisse de veau? Et là, Mathieu me dit, dans 4 minutes, je te rappelle, tu bouges pas. Et il débarque avec son pitivier. Par contre, Mathieu, va falloir m'expliquer, parce que Jean-Seb me dit, le pitivier, c'est une galette des rois, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors, en fait, chez nous, en Belgique, et même en France, hein, d'ailleurs, c'est le pitivier, c'est donc ce mélange de pâtes feuilletées, donc avec une farce à l'intérieur qui contient en général plusieurs viandes, en général du canard, du foie gras et du chou, des champignons. Et donc, en fait, c'est le même principe qu'une galette, en effet, dans le sens que c'est deux couches de pâtes feuilletées qui renferment une farce. Sauf qu'ici, c'était une farce salée avec de la viande.
Mathieu, l'aventure Top Chef s'est arrêtée cette semaine, mais c'est surtout le début d'une nouvelle vie pour toi. J'imagine, on dit souvent qu'il y a un avant et un après Top Chef pour les candidats. C'est quoi l'avenir de Mathieu aujourd'hui ?
L'avenir, c'est énormément de beaux projets. C'est vrai que Top Chef, ça ouvre énormément de belles portes. C'est avant tout quand même une belle aventure humaine. Donc je suis déjà impatient que les frontières réouvrent pour pouvoir aller voir mes amis de la compétition. Mais après, voilà, c'est plein de beaux projets. C'est des nouveaux contacts, c'est des nouveaux partenariats. C'est aussi le tournage de l'émission à la sauce belge avec Sophie Panteville qui se passe super bien. Et donc voilà, c'est vraiment plein de belles choses. En espérant bien sûr qu'on va pouvoir rouvrir les restaurants assez vite dû à la crise du Covid.
En espérant, à qui le dites-vous? Vous avez démarré le concours avec 4 feux verts pour votre premier place, ça commençait très fort. Avant cette élimination de cette semaine, la suite maintenant, c'est une nouvelle émission de télé, vous en avez parlé en Belgique. Mille merci.
Merci beaucoup.
Mathieu, bonne chance pour la suite. Et puis Cécile, dites-moi. Si vous faites le pitivier, n'hésitez pas à faire des photos parce que ça nous intéresse. Jean-Seb.
D'accord.
Jean-Michel. On est, enfin, juste comme ça, c'est plus le défi frigo, là, c'est qui veut gagner des millions, vous faites
c'est
appel à un
ça.
Ami.
C'est exactement ça, j'ai fait appel à un ami, exactement.
D'accord. Ouais, j'ai la vague impression que je me suis fait, mais alors, enfumé, mais total.
Vous voulez que je sois tout à fait honnête avec vous? C'était de la saucisse enfumée, voilà. C'est aussi bien que ça. Cécile, profitez bien de votre week-end gastronomique
merci
et
infiniment.
Merci d'être avec nous dans RTL Vous Régale. On vous embrasse. À bientôt.
Merci beaucoup. Je vous embrasse aussi.
Salut Mathieu.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. RTL Vous Régale. Tous les week-ends. Samedi, 10h, 11h30. Et voici Niagara sur RTL. Pendant que les champs brûlent, ça nous ramène en 1990.
Des arbres se penchent plus fort.
Mumu, Daniel à l'Niagara pendant que les champs brûlent sur RTL. Allez, dans un instant, retour au salon virtuel de l'agriculture que nous recréons pour vous. Et Jean-Sébastien, c'est vrai qu'il y a un invité qu'on doit avoir aujourd'hui.
On ne pouvait pas ne pas avoir le roi du salon. C'est Pierre Oteiza. Pierre Oteiza est peut-être celui qui anime le mieux ce salon depuis des années et des années, même si il l'anime moins parce que il y a plus de nuit au salon de l'agriculture. Mais on va en parler avec lui et on va parler de ses cochons, ses quintoas, son jambon, ses merveilles et ses champs basques.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
On est prêt, on est déjà en studio, on se retrouve tout à l'heure à 11h30. Et alors j'ai une très bonne nouvelle, Jade.
Oui,
j'ai un bon plan pour partir en Italie sans test PCR.
Ah, c'est bien.
C'est Clodo Capeo, notre invité, pour son nouvel album en italien. Il sera avec nous.
Et en plus, on pourra chanter.
Bon, enfin, lui, plus que nous. Hein. C'est préférable.
Si, moi, je voudrais chanter.
Non, non. A tout de suite, 11h30. Oh.
RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et avec Jean-Sébastien Petit-Demange dans RTL vous régale ce matin, on s'est dit, il y a un invité. Un incontournable. On ne peut pas recréer le salon de l'agriculture, même virtuellement sur RTL ce matin, sans l'appeler. C'est la star du salon, c'est Pierre Oteiza. Il est en direct dans RTL vous régale. Bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour. Ça va
Pierre. Bah, c'est à vous qu'on pose la question. Comment ça va dans cette année si particulière pour vous?
Bon, mais on vit comme tout le monde, le jour, et voilà.
Parce qu'il faut le dire, chaque année pour le salon, forcément vous êtes à Paris. Malheureusement, pour la première fois cette année, vous êtes resté chez vous. On est chez vous à la sortie de Saint-Étienne de Baïgorry, en direction de Pamplune, pour découvrir cette vallée sublime avec cette végétation luxuriante. On fait quoi, 20 km sur une route sinueuse le long d'un torrent, et on arrive chez vous.
Voilà, dans la vallée du Zaldude, au Zaldude, au village même.
C'est tellement particulier, c'est tellement beau cet endroit que on ne peut faire que des beaux produits. Pierre fait les plus belles charcuteries qui soient, mais ça c'est le produit, on va en parler. Comment on vit le fait de ne pas avoir de salon de l'agriculture cette année? Parce que ça doit être une crucifixion pour toi.
Oui, c'est vrai que le salon, le premier salon, 76. Depuis, c'est vrai que c'est la première année où je ne suis pas au salon. Voilà, mais c'est vrai que c'est bon pour nous, c'est une étape, le salon, et bon, mais cette année on le vit, et ben voilà.
Surtout Pierre, que votre aventure avec ce fameux cochon Quintoa, elle commence au salon de l'agriculture en 85.
Et oui, en 89, j'ai découvert le Port Basque, jamais vu au Pays Basque, et voilà, l'histoire a démarré là. Et c'est vrai que depuis, chaque année, on le présente sur pied et en produit également.
Il faut rappeler ce qui s'est passé, hein. Il n'y avait plus que 25 bêtes dans la vallée, il y en a aujourd'hui 7000. C'est vous qui avez œuvré pour le retour de ce type de cochon dans votre région?
Oui, je l'ai découvert à Paris, mais ensuite on a monté une association d'éleveurs de Port Basque avec une dizaine d'éleveurs, et aujourd'hui on est 87 éleveurs et on a eu une AOP depuis 4 ans maintenant, et c'est vrai que c'est un porc qui avance bien et qui nous fait vivre, mais qui nous touche à peu près plus de 250 familles. Voilà.
Mais comment vous expliquez qu'on s'en était complètement désintéressé à un moment donné?
Ça c'est un exemple en porc, mais des exemples comme ça, il y en a partout, aussi bien en fruits, légumes et d'autres espèces qui ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est le mot-clé du porc, c'est le temps. Le temps de l'élever, le temps de transformer les produits. C'est vrai que de la naissance, de la fourche à la fourchette, il faut compter 3 ans. Et après la guerre, les nouvelles races sont arrivées, il fallait produire, et bon, c'est le Port Basque qui est resté un petit peu en arrière, et voilà.
Pierre, c'est peut-être ça le plus important que vous êtes en train de dire sur le marché, parce que on sait que le porc, il y a eu des négociations avec la grande distribution, et c'est toujours très difficile sur ce produit particulièrement. Il faut accepter de changer de méthode de production, il faut que les consommateurs acceptent de payer un peu plus cher pour acheter moins de produits peut-être, mais pour avoir un produit d'une qualité incomparable. C'est ça le secret de l'agriculture moderne, je dirais.
Oui, bon, je pense que l'agriculture, il y a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, le travail qu'on fait, c'est un travail de niche qui aujourd'hui a le mérite d'exister, qui fait vivre des vallées, qui fait vivre des familles. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui nous suivent et qui nous font confiance et qui sont toujours là, présents.
Pierre Oteiza, quand vous vous installez au salon de l'agriculture, c'est plus un stand, ça devient un restaurant, hein, on va être honnête. Je voudrais que vous nous parliez de vos souvenirs, parce que le président Chirac, on a beaucoup forcément parlé du président Chirac depuis le début de cette émission ce matin, il n'aurait jamais raté un passage sur votre stand. C'était un amoureux des bons produits et de l'agriculture, et j'imagine que vous avez des souvenirs personnels avec lui.
Oui, c'est vrai, j'ai un souvenir super avec lui. On avait présenté tous les produits d'Aquitaine et il arrive avec tout le monde et j'avais préparé une quinzaine de verres que j'avais servi. J'avais le verre à la main et la bouteille vide. Et je cache mon verre, je fais chin. Il descend son verre et me dit « Moi, je trinque jamais avec un verre vide. » Alors vite, il fallait trouver une autre bouteille pour trinquer. Comme ça, ça va. C'était beau.
Pierre Oteiza, il n'y a pas que les camemberts qui font les présidents. Hein, parce que vous aussi, avec vos jambons, vous faites les présidents. C'est une formule, mais Donald Trump lui-même, vous aurez, paraît-il, dites-moi si c'est une légende urbaine ou pas, mais vous aurez envoyé une voiture pour se faire livrer un jambon. C'est vrai,
oui,
ou pas,
mais,
ça?
Non, mais c'est vrai qu'il est reparti de Biarritz avec son Quintoa. Et voilà, mais c'est bien.
Il faut quand même dire quelque chose.
Oui.
Le stand de Oteiza, il est toujours dans le hall où il y a les animaux. Ça, c'est important. Et puis, oui, c'est vrai que c'est un restaurant. Il y a une ambiance.
C'est pas un restaurant, c'est une cantine.
Non. C'est un bar basque.
C'est important.
C'est un bar basque. C'est un bar où on fait la fête, où on mange du jambon, où on boit des bons coups. Et puis surtout, c'est un stand où tout le monde se retrouve. C'est un stand où c'est le plus humain de ce qu'il y a dans l'humanité de ce salon. Tout le monde se retrouve, tout le monde est heureux. Et c'est peut-être ça qui manque le plus, en fait.
Et c'est vrai que depuis deux jours, j'ai peut-être eu 30 coups de fil éleveurs qui sont à la maison. Et qui m'ont dit, bon, on aurait été ensemble boire un coup, je voulais quand même te dire un petit bonjour. Et ça fait plaisir.
Pierre Oteiza, pour terminer, c'est peut-être bien la première fois dans votre vie que Paris va vous manquer?
Eh bien, oui, depuis 76, c'est la première fois que je ne serai pas au salon.
Non, je dis ça parce qu'on a fouillé un peu dans les archives et on s'est rendu compte que vous n'étiez pas... Mais non, mais vous étiez parti faire votre apprentissage à vos débuts chez votre oncle à Paris, ça a duré 5 ans, était à Neuilly. Et on raconte que ce n'est pas le paysage qui vous manquait, vous aviez peur de prendre l'accent parisien. Donc c'est pour ça que je disais ça. Rien ne vous fera quitter votre vallée.
Et on l'a maintenu quand même, vous pensez?
Ouais.
On l'a maintenu.
Ah oui, non, mais je vous confirme. Ah, et bon, si c'est un Belge qui vous le dit, vous pouvez me croire. Pierre Oteiza, la star du salon, on ne pouvait pas ne pas vous appeler. Et voilà, ouais, Milechker.
Milechker, à très bientôt. Et bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs.
Merci beaucoup. C'est l'esprit RTL vous régale, en tout cas. À très vite.
RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Merci d'avoir passé votre début de matinée avec nous dans RTL vous régale. On était franchement ravis, absolument ravis de vous accompagner dans les allées de ce salon virtuel de l'agriculture. Jean-Sébastien, je sais que ça vous manque, à vous aussi, à tous ces agriculteurs, comme à tous ces producteurs. Ben, j'espère qu'on a eu la quintessence du salon quand même dans cette émission ce matin.
On aurait pu en faire toute la journée. Il faut leur rendre hommage. Moi, je pense beaucoup à tous ces éleveurs. Et puis, on va continuer de toute manière parce que RTL étant partenaire du concours général agricole qui va se tenir c'est la première fois depuis l'origine du concours général qu'il va se tenir dans les régions. On va partir en région avec ce concours général et on va faire des spéciales en région. Et ça,
on vous en reparlera.
Voilà, ça va être autour du mois de mai.
Dans un instant, on refait la télé. Éric Dussard et Jade reçoivent Claudio Capéo, qui a quand même vendu plus de 100 000 albums. Et puis la semaine prochaine, on vous emmène où, Jean-Seb? On va
à Clermont-Ferrand, un volcan.
Les volcans d'Auvergne. Très bien. RTL vous régale. À réécouter sur l'appli RTL.
Ça nous changera, on va boire de l'eau.
Oui, absolument. Délicieux week-end. Rendez-vous samedi dès 10h sur RTL.